de cette édition de La Vie en BD. Raymond Poirier avec vous pour la prochaine heure. Et je reprends l'introduction que je fais à peu près à chaque fois quand j'introduis mes compères, mes acolytes, mes comparses, mes collègues du club de lecture. Donc, c'est Raymond Poirier qui est avec vous, mais qui n'est pas seul. J'ai le plaisir d'être avec mes trois libraires en résidence, que je salue bien bassement. Jérôme Vermette de la librairie La Liberté, bonjour.
Salut bien.
Édouard Tremblay de la librairie Pantoute, bonjour.
Salut Raymond, salut à tes auditeurs.
Et Marco Duchesne également de la librairie Pantoute, bonjour.
Bonsoir.
Alors, je rappelle le concept, évidemment, nous sommes quatre et au-delà de vouloir nous battre, eh bien, nous lisons, et je fais toujours la même blague à chaque mois, donc vous retournerez également sur laverbd.com pour la réentendre à outrance. Mais donc, nous nous rencontrons autour de quatre titres qu'un d'entre nous a sélectionnés. Donc, l'objectif, évidemment, c'est de lire ces quatre titres, de les explorer en parallèle et d'arriver devant vous, chers auditeurs, auditrices, et de les explorer, d'en discuter, de comparer différentes perspectives autour d'un même album, de tisser des liens également entre les ouvrages qui sont à l'étude pour le mois. Et évidemment, les quatre ouvrages sont choisis dans une logique alternée, donc où chacun d'entre nous choisit, chacun à notre tour, une thématique et quatre titres qui lui sont associés. Et pour ce mois-ci, eh bien, c'est Jérôme Vermette qui avait l'honneur, le plaisir, la joie de sélectionner les quatre titres. Et Jérôme a choisi d'y aller avec une thématique qu'il a appelée « L'artiste à sa table de travail ». Donc, une thématique qui s'exprime à travers quatre ouvrages qui, à leur façon, brisent le quatrième mur, intègrent au récit le travail de l'artiste. Alors, les quatre titres, je les mentionne. Jérôme, je vais te laisser évidemment les présenter avec force de détail et de verve. Alors, donc, les quatre titres, c'est « Le rituel de malheur à l'association »,« Le dessin, mais E-I-N » de Jonathan Munoz à chez Glénat. Dark Knight, une histoire vraie de Paul Dini et Eduardo Risso chez Urban Comic. Risso qui d'ailleurs devient un habitué de nos clubs de lecture. Et Saint-Rose à la recherche du dessin ultime d'Hugues Micolle chez Futuropolis. Alors, ben, c'est la question à 100$, mais évidemment un 100$ théorique puisque je n'ai pas un vrai 100$. Alors Jérôme, pourquoi nous as-tu fait lire ces quatre titres et quels sont-ils?
Ben, premièrement, là, après le délire d'Edouard la dernière fois, je voulais rehausser puis revenir à des considérations plus universitaires sur la bande dessinée. C'est une blague, Edouard, j'espère que tu le sais. Mais
pour les auditeurs, Edouard a un regard assassin qui est éclairé et mis en exergue par la lumière de ses lunettes.
Mais, en cherchant un thème, c'est que j'aime beaucoup. On discute souvent entre libraires ou avec des lecteurs et c'est là, souvent quand on essaie de défendre le neuvième art, il faut bien dire, parfois on est encore obligé de le défendre. Discuter, est-ce que la bande dessinée c'est de la littérature? Est-ce que c'est autre chose? Personnellement, je fais partie de ceux qui considèrent qu'on devrait arrêter de dire que c'est de la littérature, mais ça c'est un autre débat. Ceci étant dit, il y a une chose que je trouve particulière à la bande dessinée, c'est que c'est un style d'art artistique, c'est moi, qui réussit très bien à parler de lui-même, je trouve, qui doit faire le délice des structuralistes, si on veut, mais qui, d'une manière différente, des fois d'un album à l'autre, parfois c'est purement allégorique ou quoi que ce soit, mais réussit très bien à parler de soi-même. Et c'était un peu l'idée que je voulais avoir au centre de mes albums que j'ai choisis. Et j'en avais plus que ça en fait. À un moment donné, il faut faire des choix, là, évidemment. Parce que je les voulais également assez différents d'un album à l'autre. Donc, les quatre albums mettent en scène à différentes manières l'artiste lui-même, l'auteur lui-même, dans un contexte particulier qui est toujours relié à sa manière de travailler ou à quelque chose qui va l'influencer. Et pour les quatre, il y a un lien que je trouve particulier, c'est que les quatre ont en commun, d'une certaine manière, de parler de cinéma à leur façon. Et je trouve toujours que la bande dessinée a parfois plus en commun avec le cinéma qu'avec la littérature, justement, ne serait-ce qu'à cause du rythme, de la manière d'utiliser la temporalité et tout ça, plus avec le cinéma qu'avec la littérature. Donc, le premier album que j'avais eu en tête, c'était le dessin de Jonathan Munoz, qui est... qui a ce site particulier que, bon, pour moi, c'est comme le Karate Kid des quatre albums. Là. Il y a clairement une influence de Karate Kid, il est même référencé au moins deux ou trois fois. Là. Mais bon, il se met lui-même en scène au départ quand il est en train d'essayer de percer dans sa carrière d'illustrateur. Et puis, éventuellement, il rencontre, par le plus grand des hasards, un vieux qui aurait l'air d'un sans-abri, d'un SDF, mais qui sait manifestement comment dessiner et qui décide de lui enseigner le dessin. Et puis là, il lui enseigne d'une façon qui rappelle justement là, les leçons de M. Miyagi dans Karate Kid. Il y a une chose que j'aime beaucoup dans cet album-là, Munoz fait souvent ça dans ses albums humoristiques, c'est qu'il inclut des histoires dans l'histoire, parfois des histoires dans l'histoire dans l'histoire. Donc, il se met en scène, par exemple, en train de participer à un concours de dessin, et puis on voit toutes les œuvres qu'il fait à travers le concours en question. Mais l'élément le plus déroutant, je dirais, dans cet album-là, c'est qu'on voit également le travail de son maître. Donc, il y a une bande dessinée à l'intérieur de cette bande dessinée-là, une bande dessinée complète, finalement, qui va prendre au moins le quart de l'album, qui est dessiné dans un autre style totalement différent, qui va explorer d'autres choses que le reste de l'album de Munoz, et puis bon, ben même les hommages à la fin en sont intégrés ni plus ni moins à l'intérieur de cette histoire-là, quand on regarde à quel point le dessin, le concept du dessin est de varier le dessin pour selon ce qu'on veut dire est central dans la thématique de cet album-là. L'autre que j'avais eu en tête, lui c'est plus le à la poursuite du diamant vert de la bande dessinée, Saint-Rose, dans lequel Hugo... là, j'ai un blanc sur le nom de famille. Excuse-moi, aide-moi, Raymond.
Nicole.
C'est ça. Lui, il nous a habitués, pour ceux qui l'ont lu dans d'autres choses, il habitué beaucoup à des bandes dessinées d'action. Il a fait d'ailleurs quelques bandes dessinées purement graphique dans lesquels les gens ne cessent de se poursuivre les uns après les autres. Et c'est un peu, Saint-Rose, c'est un peu ça, c'est carrément une bande dessinée d'aventure dans laquelle il se met lui-même en scène parce qu'il veut retrouver le dessin qu'il a fait un soir de beuverie et qu'il s'est fait voler. Et il va engager les services d'un aventurier, le fameux Saint-Rose du titre. Encore là, les références au cinéma dépassent le tracé jubilatoire de l'aventure en lui-même, puisque éventuellement on se retrouve même à Hollywood, on y rencontre Captain America, Scarlett Johansson et quelqu'un qui pourrait très bien être Harvey Weinstein quand on regarde sa manière d'être avec les actrices, mais heureusement, il finit pas très bien dans cette histoire-là. Ceci étant dit, une chose que je trouve intéressante dans cet album-là, outre le fait que ses prémices à l'aventure sont un peu, sont quand même assez particulières, on peut quasiment le voir quasiment comme le combat de l'artiste qui essaie de publier, qui essaie de faire, de pondre quelque chose qui va vouloir dire quelque chose à la fois pour lui et pour les gens, et à quel point ça peut être... Ça peut être difficile pour l'artiste en question, mais Nicole le fait d'une manière, selon moi, très jubilatoire. Plus dramatique dans l'approche, il y a le livre de Paul Dini et de Rizzo, Dark Knight, une histoire vraie, publié chez Urban Comics en français. Paul Dini, qui travaillait à l'époque au niveau de l'animation, il travaillait sur le dessin animé classique des années 90, Batman, Mask of the Phantasm, et un soir, en revenant d'une soirée, il s'est fait attaquer par deux personnes. Il s'est fait attaquer et il s'est fait largement mocher. Et il parle de cette expérience-là, comment ça a failli le faire arrêter de travailler carrément dans le milieu artistique qui pourtant le comblait presque totalement. Mais éventuellement, à quel point ça a fini par l'inspirer. Donc, il a fini par surmonter cette pente-là et ça a fini par l'inspirer. Et encore là, cette bande dessinée-là reste une bande dessinée de super-héros d'une certaine manière parce que Paul Dini explore de quelle façon cette influence-là, ces influences de personnages qu'il a connus quand il était jeune, oui, mais avec lesquels il continue à travailler, cette matière-là, avec laquelle il continue à travailler, a un sens, doit avoir un sens pour lui et pour ceux à qui il va offrir une œuvre en particulier. Donc, le Joker, Batman, tout ça joue toujours le rôle de sa conscience à travers cette bande dessinée où un homme qui a été ni plus ni moins attaqué à la fois dans sa masculinité et dans sa vie essaie de reprendre le dessus. Le dernier, mon OVNI, que j'en prends toujours un, évidemment, où j'essaye, la bande dessinée de Mallaire, qui, à la base, a l'air de ne parler que de cinéma, selon moi, mais qui, au bout du compte, surtout quand on en fait une relecture, on s'aperçoit qu'elle parle également de bande dessinée. Donc, elle commence comme un récit qui rappelle un peu le scénario de Godzilla contre Monster Zero, où des extraterrestres utilisent les kaiju pour envahir la Terre, les kaiju comme Godzilla et tout ça. Donc, on a cette histoire-là en parallèle, mais en fait, la bande dessinée, le rituel dont on fait mention, c'est celle de quelqu'un qui a travaillé dans les maquettes qui servaient à faire les scènes d'action de ces films-là au Japon. Et la voix off qu'on voit constamment, c'est lui, mais on le voit également en train de prendre le thé. Donc, le rituel, c'est l'auteur qui prend le thé avec cette personne-là et... Mallaire nous met dans la peau du BDiste qui est en train de faire de la recherche, ni plus ni moins, parce qu'à toutes les fois qu'on voit ce personnage-là qui parle de son métier, il nous regarde, donc il défonce le quatrième mur, et à ce moment-là, Mallaire nous met dans le rôle de celui qui est en train de recevoir cette information-là, à partir de laquelle il va faire son travail. Voilà pourquoi j'ai choisi de ces bandes dessinées-là qui sont à la fois, selon moi, très différentes graphiquement dans leur manière de parler du sujet et puis dans le dessin également. Donc, graphiquement, je l'ai dit. Donc, voilà, c'était les bandes dessinées que je vous proposais, messieurs.
Et tu me surprends, par exemple, j'ai trouvé qu'ils étaient quand même rigoureusement identiques avec à peu près le même langage graphique, mais bon, c'est une blague. Marco, Édouard, je ne sais pas si un de vous deux veut se lancer avec un titre, Édouard, oui?
Ben oui, hein, comme le veut la tradition, si vous me permettez, j'aimerais entamer la chose. Abondant d'emblée dans le sens de Jérôme, parce que justement, c'est quatre BD très différentes, mais en même temps qui ont, au-delà justement bon, de cette mise en scène de l'auteur, et de par cette mise en scène de l'auteur au sein de la BD, je pense qu'ils ont ce point aussi commun de savoir qu'on jette, dans le fond, un regard, une analyse du métier de BDiste à proprement parler. Non seulement de sa relation avec la composition, avec l'image, mais de tous les aspects et avec les cadres, justement, on aborde justement tous ces aspects-là de passation, de trouver son style, justement, de publier. Quitte à se lancer, nous lançons-nous justement avec le rituel qui m'a marqué justement sous cet aspect-là, parce qu'il y a ce regard, comme vous dites, évidemment, du type sur son métier. C'est je pense, la colonne vertébrale, le fil conducteur du récit. Mais en même temps, et ce qui m'avait marqué, c'est cette page où justement le type explique qu'il ne cherche pas à raconter quelque chose. Et il parle de créer une scène pour créer une scène, et bon, visiblement avec son métier, bien sûr, de faire des espèces justement de maquettes, de dioramas, il a cette capacité justement de geler comme ça dans le temps un moment, comme on peut le faire avec une photo, avec quelque chose comme ça, et je trouvais ça, bon, d'un, évidemment, profondément dichotomique, de pas vouloir raconter de quoi en parlant, en racontant de quoi, ce qui est quand même assez extraordinaire, tu sais. Mais justement aussi de mettre ça en clash par rapport à l'intention justement d'un auteur, parce qu'on se dit que tu es un auteur, bon sang, tu dois avoir de quoi à raconter, tu as de quoi vouloir dire. Encore que des fois, quand on lit Drouillet ou des choses comme ça, on peut le remettre en doute, là. Mais tu sais, je sais pas, il y a quelque chose quand même d'assez paradoxal dans tout ça.
Oui, non, c'est intéressant là-dessus, en fait, parce que c'est clair que le côté narratif est au cœur de ce récit-là. Dans le fond, les voix, la réflexion sur le travail, sur le métier. Et finalement, dans le fond, un homme qui au bout du compte, moi, je l'ai reçu un peu comme s'il se racontait, il racontait dans le fond sa méthode, son approche de travail quasi religieuse, si on peut dire, dans la création de ces décors-là qui sont destinés au bout du compte à être détruits. On comprend, vous l'avez dit, que c'est des maquettes de films de monstres, et c'est des costumes de films de monstres, donc on est un peu dans l'idée d'une espèce de version japonaise d'un Ray Harryhausen ou presque, mais qui se contente justement de refaire toujours un peu la même chose. Qui trouve un plaisir dans l'aspect rituel de toujours recommencer la même démarche de création, à peu près dans le même esprit, pour recréer ce Tokyo-là qui, oui, est à différentes époques, mais qui est toujours, au bout du compte, le même Tokyo pour le même film dans lequel il va se passer les mêmes péripéties, mais que, dans le fond, au bout du compte, lui trouve un sens et un plaisir dans ce rituel, dans cette routine-là. Donc, au bout du compte, on fait un rapprochement peut-être un peu entre... le côté routine du quotidien, donc le fait que nous tous, on a des emplois qui sont classiques, avec un côté routinier, mais qui a un plaisir à trouver dans cette répétition-là et un sens à trouver dans cette répétition-là, et que cette répétition-là peut se retrouver même dans l'acte créatif, au bout du compte, qui, pour lui, devient un peu routinier de par, justement, une dynamique de répétition, de redondance. Donc, c'est intéressant comme perspective de ce côté-là, et je trouve que c'est un peu ça, peut-être, que ça raconte, ou ça met de l'avant dans un graphisme hyper épuré. Là. Ouais.
C'est drôle que tu mentionnes ça. Peut-être que dans cet ouvrage-là, effectivement, la routine et tout, mais pour Mahler, il y a une cassure avec cet album-là. C'est-à-dire que Mahler, sa production traduite en français, jusqu'à maintenant, il n'y avait que des BD sans parole, sans texte. Pour Mahler, raconter une histoire, et il y a une facilité à la raconter sans texte, c'est-à-dire que après une page ou deux, on comprend l'ensemble de comment va se passer la chose, même si, il y a peut-être des punchs ou... Mais quand arrive le rituel, moi, je me rappelle, un Mahler que j'aime beaucoup par le dessin. Il y a du texte. Oh, déjà là, il y a un travail qui s'amorce dans le lecteur, même le lecteur qui connaît l'œuvre. Et là, il s'amorce un peu. Et là, il faut décoder la voix off. Il faut décoder les flashs, le rituel et l'entrevue avec les scènes. Et là, c'est tout un travail. Mais il a réussi magnifiquement là, à superposer. Même si... il s'adresse au lecteur et on sent, pour la première fois, on sent l'auteur derrière cette démarche-là, derrière cette histoire-là, derrière la façon de raconter. Et c'est ça qui en fait un ouvrage assez particulier, en tout cas pour moi, là, assez particulier. J'ai été un peu surpris à la lecture de ça.
D'ailleurs, reprendre un peu ce que tu disais, la simplicité des dessins, à première vue, pour le lecteur de BD, je vais dire, excusez-moi, j'emploie l'expression lambda, c'est pas un ouvrage qui va être attirant nécessairement parce que les dessins sont vraiment presque naïfs, d'une très grande simplicité. Là, je connaissais pas l'aspect de la... Moi, c'est le seul Mahler que j'ai lu. Là. Puis en même temps, c'est une BD, je trouve, là, ça fait une couple de fois que je la relis. C'est une BD qui gagne à la relecture, d'ailleurs. Une BD où on en découvre un peu à chaque relecture, je trouve... des éléments qui parlent autre que juste le texte qu'on voit, justement, ou l'image. Moi, je vous parlais de l'artiste à sa table de travail. Je parlais d'avoir l'impression, quand une des fois où je l'ai relu, justement, que Mahler me mettait le lecteur dans le rôle du BDiste qui est en train de reprendre les notes de ce que le personnage lui raconte, mais en même temps... en train de penser qu'on peut imaginer que ce personnage-là représente également l'illustrateur dans une grosse maison d'édition quand il parle des producteurs, réalisateurs qui ont l'air de se foutre un peu de ce travail-là. Lui, c'est juste important qu'il y ait des explosions et tout ça, puis il parle du récit qui devient de plus en plus bizarre avec les années, mais que lui, tout ce qui compte, c'est de faire le meilleur travail, puis il veut le faire... Il veut le faire avec la poésie qui va, ce que lui voit dans son travail. T'sais. Donc, c'est ça, il y a comme plusieurs niveaux de lecture, finalement, qu'on peut tirer d'un ouvrage qui a l'air, somme toute, simple, finalement, au bout du compte.
Oui, on fait un peu dans l'idée de la chaîne de création. Effectivement, je pense que c'est une correspondance que je trouve intéressante parce que on le voit un peu dans le cinéma ou dans n'importe quel élément où, finalement, on se met au service aussi de la vision de quelqu'un d'autre. Ben, si ce quelqu'un d'autre-là n'a pas nécessairement une vision grandiose, ben, il faut trouver un autre sens à notre travail de création que le sens qui pourrait émaner de la vision de ce créateur-là. Et en même temps, ben, en fait, oui, d'un visuel qui est quand même simple et naïf, mais d'un autre côté, il y a quand même un jeu avec les situations de narration. Dans le fond, on le voit, d'un côté, il y a la narration où il nous explique ce qu'il fait, ce qui se passe, ce qu'il réfléchit. On le voit faire des choses. Il y a un film aussi qu'on découvre un peu en parallèle. Donc, il y a un jeu entre des séquences plus noir et blanc, noir et gris, avec des séquences de couleurs. Donc, il y a quand même une complexité. Dans la simplicité de cet album-là, il y a une complexité qui nous a amené aussi avec des côtés méta où les personnages vont avoir une opinion sur le film qu'ils sont en train de tourner, où la voix off a une opinion sur ce qui se passe, a une opinion sur ce qu'elle fait. Où... Donc, effectivement, je pense que c'est le genre de récit qui, oui, en relecture, finit par gagner parce que déjà, après juste l'avoir parcouru deux fois, il y a plein d'éléments qui émergent, de structures qui ressortent. Parce que, dans le fond, c'est un peu ce que j'appellerais de la fausse simplicité au bout du compte.
Bien, tout à fait. Puis c'est pour ça que je pense que la bande dessinée, parfois, est quelque chose d'autre que juste de la littérature, juste de l'image. Hein? Là, tu vois, un roman ne pourrait pas faire tous ces niveaux-là en une seule page. C'est l'utilisation de l'image avec le texte et tout ça qui permet ces niveaux de lecture-là en une seule planche, en utilisant la couleur, etc. Donc, en tout cas, du moins, bon, là, je ne veux pas avoir l'air grossier parce que j'en lis des romans, puis on peut en faire toutes sortes de choses également, mais on s'entend que la bande dessinée, à cause de la narration avec l'image et tout ça, permet des choses qui n'appartiennent qu'à elle, finalement. Là. Puis je trouve que c'est un bon exemple.
Ben, visiblement, on peut dire qu'à toute chose, malheur est bon.
Oh!
C'est juste pour suivre Edouard. Oui, merci. J'aime bien aussi, justement, dans ce choix, bon, on parle beaucoup de quête de sens dans la BD et à quelque part, d'avoir choisi, justement, un titre comme Le Rituel, bon, au-delà du thé, c'est un peu ça aussi, je veux dire, un rituel, quand on le ramène à sa plus simple expression, je veux dire, c'est juste quelque chose qui c'est un geste, c'est une action qu'on répète parce qu'elle nous correspond, parce qu'elle nous met en paix avec nous-mêmes, parce qu'elle nous fait réfléchir. Et donc, il y a justement dans cette idée de production, de chaîne de production, justement, qu'on parlait, où un gars de cinéma ou un gars de BD peut se retrouver pris à illustrer, par exemple, une BD de manière alimentaire que ça y tente peut-être pas nécessairement de faire et tout. Mais, tu sais, la vie est ce qu'elle est, puis un moment donné, d'aller chercher, justement, d'aller chercher le sens dans ce qu'on fait, d'aller chercher la passion ou le significatif dans ce qu'on fait, ben c'est, à mon avis, le palliatif à cette espèce de carcan-là hein, qui peut nous être imposé, cette espèce de choix, en fait, qu'il faut faire à un moment donné, je pense que comme auteur de BD, de se demander, de dire là, est-ce que je vais faire quelque chose pour moi, par moi, au risque peut-être de passer sous silence? Ou est-ce que je vais, disons, me compromettre pour essayer de faire quelque chose de plus commercial, pour essayer d'avoir une certaine notoriété et à partir de là, faire ce que je veux? Ce qui est, à mon avis, un des points centraux du dessin de Munoz, en fait, où justement on a cette, encore une fois, c'est quand je parlais des aspects réflexifs, cette réflexion-là, je pense, très, très forte, et que le justement l'autre BDiste, cette espèce de Monsieur Miyagi, sans trop vouloir en révéler, parce que j'aimerais bien que les gens, évidemment, la découvrent, l'histoire est super cool, la BD est vraiment, j'ai eu beaucoup de plaisir avec ça, mais justement que ce type-là confronte vraiment Munoz à cette idée-là, c'est-à-dire que là, oui, OK, faire de la BD, mais où tu vas te positionner là-dedans? Jusqu'où tu es prête à te compromettre, jusqu'où tu es prête à ne pas, justement, ne pas plier au dictat de ce que le commerce voudrait avoir. J'ai trouvé cette réflexion-là quand même profondément géniale et très, très fun aussi.
Oui, parce que c'est amené de différentes façons.
C'est bien important.
Oui, c'est amené de différentes façons, de façon évolutive. Je veux dire, on ne reste pas longtemps sur une démonstration. T'sais, il va nous démontrer, nous expliquer les choses. Mais éventuellement, le récit se permet d'évoluer. C'est comme on commence, on est quand même très critique envers le travail de la BD, envers le travail de l'auteur, envers le côté bon publicité versus dessin plus créatif, artistique, les manières de rejoindre le public, le côté pop un peu de la chose. Éventuellement, on le dépasse, on tombe un peu ailleurs. Après ça, éventuellement, on évolue vers, en fait, tu le mentionnais, la BD dans la BD. Donc, ce qui fait que on dirait qu'on a l'impression, à un moment donné, qu'on pourrait se lasser en commençant ce récit-là, mais parce qu'il réussit à changer un peu de style, toujours au service du même objectif, eh bien, ou de changer d'approche, toujours au service du même objectif, bien, notre intérêt est constamment renouvelé. Et on passe d'une dynamique où on a l'impression, entre guillemets, d'en apprendre à travers un regard un peu blasé sur le métier, où là, finalement, on se retrouve complètement ailleurs, rendu une trentaine de pages plus loin.
Ben, c'est une BD, d'ailleurs. Je trouve qu'elle montre bien... Il y a beaucoup de gens là, qui semblent... On voit beaucoup de gags hein, circuler sur les réseaux sociaux des artistes là-dessus. Beaucoup de gens semblent croire que l'artiste naît artiste. C'est-à-dire avec son talent inné et tout ça. Mais en fait, Jonathan Munoz, c'est jamais clairement dit en tant que tel, mais on peut le sentir à la lecture de cet album-là, devenir un artiste qui est capable de faire quelque chose qui va... oui, notamment, il met ses tripes sur la table, mais il le fait d'une manière qui dépasse juste « je fais des traits ». Donc, ça demande énormément de travail et c'est ce que le dessin montre. Donc, déjà en partant, il y a cet aspect-là. Là, évidemment, ben, comme le disait, excusez-moi, j'ai un blanc ce soir.
C'est Raymond ou Édouard à date qui ont parlé.
Édouard, excusez-moi. C'est comme le disait Édouard tantôt, l'artiste est en même temps dans la recherche de son expression personnelle tiraillée entre est-ce que je veux du cash, est-ce que je veux... pouvoir faire ce que je veux, comme je le veux, comme je l'entends. On sent bien que dans le dessin, c'est un peu entre les deux que ça se situe à quelque part. Hein.
C'est tout à fait ça. Dans le sens, ce que vous disiez, l'artiste a à un moment donné un choix à faire dans ce qu'il veut exprimer, comment il veut l'exprimer. Mais ce qui est plaisant de voir dans les quatre albums, on retrouve un peu ça dans le sens que à un moment donné, les albums, ça reste des histoires dessinées avec des noms sur la couverture et sans plus. Parfois, ils sont invités à faire des interviews grâce à Internet, grâce aux médias qui ont commencé à exploser, à s'occuper de la BD, à en parler et tout. On voit les auteurs de plus en plus dans des événements comme les festivals, comme les... des trucs spéciaux, causeries dans lesquelles on invite les auteurs à venir parler. Et Dieu sait que certains ont envie de parler de leur métier, de montrer que, bon, écoutez, vous recevez un album une fois par an, une fois par deux ans, et dans la tête des gens, tu sais, évidemment, comme un roman ou comme n'importe quel artiste, tu as l'impression qu'il apparaît le truc, mais il travaille là-dessus. Mais beaucoup d'artistes ont envie de faire connaître le travail et la façon dont il travaille. Et dans les quatre albums, le dessin, on sent cette volonté-là de Munoz de vouloir dire, ben écoutez, voici comment naît toute la patente, là, tout le côté artistique. Mais pour ma part, ce que j'ai beaucoup, beaucoup aimé de Munoz, cet album-là, c'est que j'avais, dans les années 90, quand McCloud est arrivé avec L'art invisible, pour la première fois, on avait un album, un ouvrage théorique sur la BD, fait par un auteur de BD, mais il nous l'expliquait en BD. Faire sauter le quatrième mur avec le petit personnage de McCloud qui t'explique ça, c'est un dessin, ça, c'est une case. Ouais,
mais ça reste génial, ça.
Ouais. Oui, mais et là, théoriquement, il nous explique pendant un espèce de volume sur l'art de invisible, l'art de faire de la BD. Mm. Mais en plus, il a rajouté deux autres tomes qui sont moins connus sur... Ouais. La BD, comment on en vit? Ça avait un aspect américain parce que, bon, c'est un Américain puis il parle de comics, mais quand même, il y avait un aspect, un coup que tu dessines de la BD puis tu as compris le truc, comment tu la mets en marché? Comment tu te vends? Et comment tu vends ton art? Et il y avait un troisième qui était la bande dessinée aujourd'hui. Bon, l'album a quand même quelques années. Mais à la lecture du dessin, moi, ce que je retrouvais, c'était Munoz. C'est comme s'il avait dit, OK, voici les ouvrages théoriques, m'en vous raconter une histoire avec la théorie que, voilà. Et là, c'est à peu près ça. Le petit personnage, Munoz, qui, bon, commence à se définir comme dessinateur de BD, qui va, et on voit tout le processus. Alors, c'est comme si on avait mis tous ces tous ces éléments théoriques-là là, que McLeod nous montrait en BD. Et là, il dit, ben, je vais faire une biopic sur moi, mais avec les éléments de la BD. Parce que, tu sais, au niveau narratif, on voit qu'il comprend tout le truc. Là. Puis, il ose faire, dans la narration, le truc des dessins, là, de montrer les dessins de son maître et de changer de style et tout.
Puis même quand tu prends le temps de le lire, bon, là, je ne pense pas me tromper en le disant, mais si ma mémoire est bonne, il n'y a jamais de boîte là, qui dit plus tard ou pendant ce temps, tout ça. Et pourtant, quand tu prends le temps de le lire, cet album se déroule sur plusieurs semaines, plusieurs mois, mais c'est à la lecture que tu vois cette évolution-là. T'sais, éventuellement, quand l'album commence, il reçoit une lettre de refus. Ça commence tout de suite comme ça. Il reçoit une lettre de refus. C'est manifestement le début d'une mauvaise journée. Il s'est arrosé par la voiture, etc. Puis, quelques planches plus loin, à un moment donné, il a réussi à avoir son premier contrat dans une revue reconnue, alors avec ses collègues, ses amis qui sont eux-mêmes illustrateurs, l'envie, évidemment, mais ce qu'on comprend, c'est que c'est le travail qu'il a fait avec ce maître-là qui l'a amené vers ça, puis éventuellement, donc évidemment, vers le concours et puis la découverte de d'autres manières de faire. Mais tout à fait, c'est qu'au niveau du narratif, il y a plusieurs moments dans cette histoire-là. Il y a même une histoire d'amour. Hein? Il rencontre même la personne qui devient sa femme dans cette histoire-là. Puis pourtant, c'est un album très court avec plusieurs histoires dedans. Donc, c'est quand même assez jubilatoire à lire là, à travers tout ça. Là. Puis Munoz, ben, qui travaille entre autres chez Flûte glaciale parfois et tout ça, il y a un humour parfois dans le style Flûte glaciale. Hein? Fait que...
ben, oui, mais tu m'enlèves vraiment les mots, parce que c'est vraiment là où je voulais m'en aller, justement, parce qu'au-delà du regard, au-delà justement de cet aspect de réflectif sur la pérennité, sur le truc, c'est tout bonnement juste un album le fun à lire. L'histoire est le fun, c'est prenant. C'est drôle, c'est ça, c'est amusant. Il y a une ride comme extraordinaire dans tout ça. Et dans une mesure, disons, beaucoup plus iconoclaste, ben, c'est ce qu'on retrouve aussi dans Saint-Rose. Je veux dire, bon Dieu, l'aventure, écoutez, avec des cochons qui parlent, avec Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre, en espion, avec Hollywood, avec tellement d'aspects, mais qui en même temps renvoient, on voit où l'auteur quand même veut aller, malgré, comme je disais, une histoire qui est complètement hallucinée. Mais je veux dire, tu sais, on retrouve le souffle de Cortot, on retrouve le souffle de Théodore Poussin, on retrouve le souffle de Tintin, on voit où le gars est allé chercher ses trucs, et même, tu sais, le côté, évidemment, Baron de Munchausen, qui est over the top, complètement, c'est ça, exagéré. C'est sûr que par moment, je vais te dire, ben franchement, je me demandais vraiment ce que j'étais rendu, là, tu sais, j'étais comme, bon sang, où ça s'en va, cette histoire-là. Mais en même temps, et encore une fois, je pense que c'est apporté au crédit de l'auteur, je veux dire, il y en a une histoire, là. On va quelque part, là. On aboutit, et pour revenir à cette espèce justement de point d'ancrage dont je parle depuis le début, tu sais, je veux dire, le dessin ultime, tu sais, quelle belle allégorie justement pour, je veux dire, la quête d'un auteur, d'un BDiste, de n'importe qui, d'aller chercher son paroxysme, tu sais, d'aller chercher comme l'idée qui va te propulser, celle qui va être ton apothéose, et en plus tu la perds, mais je veux dire, tu sais, tu peux la perdre, bon là elle est volée, mais je veux dire, tu peux la perdre parce que tu l'oublies, tu peux la perdre parce que tu te perds toi-même,
et à ses yeux, c'est une chance de vie là, hein, ça arrive une fois sur
ben c'est ça là, tu sais, c'est un moment qui passe, puis si tu le laisses passer, ben c'est râpé. Et donc, il y a quelque chose de quand même très, très profond malgré tout, là, malgré justement le fait que, tu sais, un petit peu de LSD, une bonne pipée d'opium avant de dire ça, c'est pas un luxe. Là,
oui, Marie, il y a plusieurs, encore là, je trouve qu'il y a plusieurs niveaux, il y a plusieurs degrés dans cette aventure-là. T'sais, d'un côté, l'aspect esthétique, déjà, moi, me renvoie vraiment au vieux comics. Il y a vraiment un côté faussement rétro qui est très accentué, puis qui met de l'avant. T'sais, moi, je me retrouvais dans mes vieux Mandrake et autres. J'avais l'impression de retomber là-dedans.
C'est très
bon. Des récits épisodiques où on passe vraiment d'un truc à l'autre. aussi, là, tu sais, où on est vraiment constamment poussé vers l'avant à la course. On parlait tantôt de nécessité des fois de plusieurs lectures, ça c'en est un autre. Je veux dire, à un moment donné, c'est que ça déboule vite. On passe d'un épisode à l'autre, c'est fantastique, c'est surprenant, ça va un peu n'importe où, mais on sent que c'est très dirigé quand même. Et à un moment donné, pour bien saisir peut-être un peu justement le côté allégorique, on dirait qu'il faut retourner un peu, trouver un autre angle de lecture ou le lire avec cette perspective-là en tête. Et donc, on peut le digérer, disons, de différentes façons, cet ouvrage-là, parce qu'il s'y prête, dans le fond, je trouve. Et sinon, ça m'a vraiment surpris. Je rejoins Édouard là-dedans. Là, c'est un objet très particulier.
Ça, en même temps, dans les 4 albums que j'ai suggérés pour ce soir, c'est le plus linéaire au niveau narratif.
Et c'est le plus littéraire.
Oui.
À quelque part, oui.
Parce que Nicole, ce qui nous a habitués dans les œuvres avant, c'est au niveau de la narration en bande dessinée, de jouer avec cette narration-là, de jouer avec cette absence de cases. Il y a des albums, c'est magnifique, les planches sont des œuvres d'art en tant que telles, et pas le dessin. La narration est une œuvre d'art en tant que telle. Il nous a appris à jouer avec ça, puis il raconte magnifiquement les scènes. Et là, classique, case par case, et là, c'est l'histoire qui devient, avec un imaginaire, et on pourrait décrocher, mais chaque personnage qui intervient est crédible dans le sens que, autant crédible que Corto qui rencontre James Joyce, qui rencontre Rasputin, dans le même ordre d'idée. Et là, on joue un peu ces histoires littéraires qui racontent des personnages, qui rencontrent des personnages et des gens réels qui ont vraiment existé. Et là, lui, il le fait magnifiquement dans une espèce de... C'est vrai que c'est un espèce de récit délirant, mais en étant tout à fait en conservant ce classicisme-là, je pense qu'il le rend un peu plus crédible puis intéressant, à mon avis. Moi, je pense que c'est ce qu'il y a de plus proche de la littérature, ce livre.
Ouais, je reviens du poney à ce que tu dis, Marco. En fait, dans la mesure, je pense que la crédibilité est importante, puis on ne la perd pas. C'est que, dans le fond, il nous amène tout et n'importe quoi, mais on ne perd jamais, dans le fond, le fil des règles. Dans le fond, on sent que dans l'univers dans lequel on évolue, ça se peut. Dans l'univers dans lequel on évolue, c'est logique. Dans le fond, on rencontre un cochon qui parle, différentes créatures, des êtres humains de différents endroits, des personnages fantastiques, comme tu l'as dit, des personnages plus réels. Et ça va de soi qui sont là et on ne remet jamais ces fondements-là en question. On n'est même pas appelé à y penser, dans le fond, comme tel.
Parce que c'est un mécanisme de l'humour, ça. Le truc, c'est un personnage peut faire des choses délirantes ou être un personnage délirant, mais si tout autour, les gens font comme si c'était normal, il est là le déclic. Et c'est pour ça que ça reste crédible. T'sais. Le meilleur exemple, c'est Groucho Marx quand il drague Margaret, je ne serais plus dans les films. Groucho Marx, des fois, drague une actrice, un personnage féminin. Et c'est délirant la façon dont il drague, mais le personnage de féminin fait comme si c'était normal. Et c'est là que le mécanisme se fait. Ça reste crédible. Alors, dans cette histoire-là, qu'un personnage soit un cochon, qu'on part, puis on arrive à Hollywood, puis on rencontre le Capitaine America, évidemment. Mais tout ça autour, tout ça semble normal, dans une quête tout à fait normale, retrouver un dessin. Il n'y a rien de plus réaliste que ça. Alors, c'est ça qui fait en sorte que la crédibilité, on reste accroché à cette crédibilité-là.
Puis Nicole, je ne crois pas me tromper, Marco, tu me corrigeras, mais j'en ai lu quelques-uns, mais lui, c'est souvent une tendance de faire des genres de course-poursuite hein, d'une certaine manière dans ses histoires, puis c'est un peu ça, c'est rose. Il ne perd pas de temps dans la mise en place, mais ça fonctionne toujours. Alors, cette BD-là, elle commence tout de suite par le personnage principal qui est manifestement Nicole, qui arrive au château de Saint-Rose. On n'a pas besoin de savoir c'est qui Saint-Rose. Juste dans ce qu'ils se disent, on comprend c'est quoi son rôle. On comprend ce que tout le monde fait là. Puis on peut partir tout de suite à l'aventure. Et il arrive dans cette BD-là qui se lit déjà juste comme ça en partant. Des péripéties aux 2 ou 3 planches. Là, finalement, ça roule à fond la caisse, comme on dit. Mais c'est ça, je ne crois pas me tromper en disant que c'est une tendance chez cet auteur-là de faire des trucs rocambolesques comme ça. Tout
à fait. Sa façon de raconter, souvent, même quand c'est sérieux, je pense au dernier album, l'espèce de guerre au Mexique où avec les Outlaws et tout, qui était tout de suite, c'était de l'action, mais c'est toujours par rapport à la narration. Toujours par rapport à la narration, cette façon qu'il a de narration. Quand le dernier, la narration était par rapport au dessin, à la fonction, à la succession de ces images-là. Mais ici, ça reste encore de la narration, même si les cases sont classiques, même si les images... Alors, même dans le texte, cette maîtrise du dialogue qu'il a et qui fait succéder ces dialogues-là, et la facilité dans laquelle le lecteur rentre facilement dans l'histoire, effectivement, ça reste une continuité dans son œuvre de raconter les histoires. Ça reste vraiment... moi, j'ai pas vu, même si l'album visuellement est différent, mais j'ai pas vu de grande différence dans la qualité de ces histoires qu'il raconte.
C'est ça. C'est, puis il est jamais, jamais, jamais ennuyant. Ces albums, c'est la fête presque toujours. Là, c'est vraiment un auteur à découvrir.
C'est justement, comme vous disiez, parce que je vois surgir, tu sais, comme encore une fois, les deux, il crée l'illusion de réalité, de crédibilité, malgré le contexte, c'est ça qui est complètement halluciné. Et justement, je veux dire, même si tout ça est burlesque et complètement fou, je veux dire, tous ces référents-là, justement, parce qu'ils sont quand même, parce qu'ils font écho à la tradition de grandes BD classiques, d'aventure et tout, ben on est absolument pas perdu, là, justement. T'sais, c'est normal que, justement, Saint-Rose, ben, ça, il va de soi, qu'il parte en bateau, ça va de soi, je veux dire, le cochon, bah, là, tout finit par aller de soi, parce que c'est ancré, à mon avis, justement, dans des référents qui sont tellement classiques, tellement forts, que, je veux dire, c'est pratiquement comme rentrer à la maison, tu sais. Et parlant de rentrer à la maison, vous me voyez venir, parce que comment rentrer plus à la maison qu'avec Batman? Ben, là, évidemment, c'est très personnel, mais je pense que Marco, notamment, abonde dans mon sens également.
Oui, puis Batman est abonné aussi à nos clubs de lecture.
Oui, vous comprenez.
Probablement le super-héros le plus populaire, anyway. Là.
Et en tout cas, mon humble avis, je pense qu'encore une fois, Marco est d'accord avec moi, probablement le meilleur, le plus intéressant.
Le plus humain.
Le plus humain, oui, aussi, carrément. Mais quand même, quand on parle le plus humain, disons que quand on lit justement le récit de Paul Dini, on est salement ramené à hauteur d'homme. Hein, et on se rend compte justement de quand même que Batman, malgré tout, c'est la fiction. Hein, parce que c'est le choc un peu, bon, des gens partant, comme le disait Jérôme, Dini qui va être victime d'un assaut, mais d'un assaut très, très sauvage. Il s'est fait péter l'arcade, quelque chose de vraiment extrêmement traumatique, hein, dans sa nature. Et un des aspects aussi qui, moi, m'a marqué dans la façon dont il raconte ça, c'est que justement les deux types qui l'agressent, l'abondent d'injures, je veux dire, de tout bord, de tout côté, en hurlant sur lui et tout. Et même s'il est dans un quartier habité, même s'il y a personne qui intervient. Il n'y a personne. Et bien sûr, on ne peut pas s'empêcher de voir justement, de se dire, ouais, tu sais, Batman n'est pas venu. Non, Batman n'est pas venu. Batman, c'est la fiction. Et c'est là qu'entre toute cette réflexion d'Ini, parce que je pense qu'il y a même une question d'intégrité et d'authenticité qui soulève à dire, tu sais, comment je peux créer cette espèce d'illusion, cette espèce d'espoir, cette espèce de fiction autour d'un héros qui est toujours là au bon moment, qui va toujours arriver, alors que moi-même, à cause de ce que j'ai vécu, j'y crois plus. T'sais. Et ça donne un récit. C'est quand même, c'est bouleversant. Là. C'est quand même quelque chose qui, on s'entend, on s'est bien marré avec les précédents. Là. Mais dans celui-là, dans cette Dark Knight, une histoire vraie, là, on change quand même passablement d'ambiance. Ouh, et ça donne quelque vraiment. Chose qui prend au trip.
C'est une crise de foi.
Oui.
Paul Dini, il y a une crise de foi. Je veux dire, pour ce que tu as mentionné comme événement... Effectivement, il en mange toute une dans un quartier et Batman n'est pas là. Et lui, il a trempé dans cet univers-là. Et c'est pas n'importe quel scénariste. Oui, il a fait de l'animation, mais il a participé à l'univers de Batman dans les années 80-90 et comme auteur, là, mais vraiment impliqué. Là. Et là, Batman n'est pas venu. Bon, oui, il sait que c'est fictif. Oui, il sait que c'est un... Oui, mais il n'est pas venu. Dans le sens que tout du long de cette biopic où il amène le lecteur dans son univers à lui, qui est imprégné de l'univers de Batman, il remet en question le bien, le mal, le personnage qui représente le bien et les personnages qui représentent le mal. Pourquoi, comment douter de tout, de cet univers? Batman remplace Dieu. À la limite, c'est une crise de foi, à mon avis.
Non, c'est intéressant, en fait, parce que c'est clair qu'il y a, un côté, un ancrage dans la réalité qui est extrêmement fort, encore plus que dans les trois autres, où, dans le fond, on a un auteur qui se remet en question, où on a, tu sais, d'un point de vue autobiographique, dans le fond, je veux dire, c'est un moment de grande vulnérabilité que Paul Dini a vécu, qui nous propose. Dans le fond, où le super-héros, un peu comme dans la réalité, mais dans le récit, il se fait un peu attendre. C'est Batman sans Batman. Au bout du compte, Batman est un artifice, est un métaphore à l'intérieur de ce récit-là, qui s'annonce comme un Dark Knight, un peu, où on pourrait penser avec l'éditeur et le reste que ben, Batman va être un peu là. Mais non, il n'est pas vraiment là non plus. On réfléchit à ce qu'il représente, et je pense que tu l'as très bien dit, Marco. On se retrouve avec, je reprends tes termes, une crise de foi. Je pense que c'est clairement le cas, où on remet en question notre capacité à imaginer, dans le fond, un monde meilleur. Et où encore là, dans le fond, une fois qu'il s'est vidé les tripes sur le moment de vulnérabilité qu'il a vécu, ben, on pousse plus loin l'introspection, on pousse plus loin cette vulnérabilité-là et on va jusqu'au bout de cette démarche-là, et c'est extrêmement généreux, je trouve, de la part de Dini, de se montrer comme ça et de nous amener dans cette réflexion-là et dans une réflexion qui est profondément intime. Et de ce fait, c'est un archétype de dire ça, mais c'est vrai, je trouve, dans une situation comme ça, qui devient profondément universelle aussi, ouais. Parce qu'on est profondément dans l'intime, dans le personnage.
Dini, d'ailleurs, se met en scène, s'en sort. Hein? Il se montre vraiment comme le geek ultime. Il vit seul avec ses objets de collection, un peu dans une tour d'ivoire jusqu'à ce que cet événement-là arrive. Il gagne bien son argent, il rencontre des vedettes et il travaille sur les Tiny Toons avec, aux côtés de Spielberg et tout ça. Et quand cet événement-là arrive... c'est normal que ça le déchire complètement parce que là, il a rencontré la vraie vie en quelque sorte, hein, qu'il ne voyait plus de sa tour d'ivoire. Mais la beauté de cette bande dessinée-là, en dehors du dessin de Rizzo, qui est que je trouve magnifique, là, la mise en scène de Rizzo, là, c'est la façon dont elle nous parle de... Bon, lui, il parle de bande dessinée, puis c'est de ça qu'on parle ce soir, mais la façon dont l'art peut nous aider à passer à travers la vie aussi. Hein. Alors, sa jeunesse, puis moi, je me suis beaucoup identifié à la manière dont il a parlé de l'école, comment ces éléments-là l'ont aidé à passer à travers un truc qu'il trouvait d'un ennui incroyable, qu'il avait de la difficulté à avoir des amis, tout ça, mais... Éventuellement, comme le dit Marco, il a une crise de foi, mais c'est quand même son lien avec ces personnages-là de Batman, du Batmanverse, si on veut, qui vont l'aider aussi à passer à travers cette crise-là éventuellement et lui permettre de s'en sortir. Donc, ultimement, le message reste celui du bienfait de l'art, ni plus ni moins, et ici du 9e art, là. Dans le fond. Là.
Oui, bien, comme catharsis d'emblée, parce que je pense que c'est vraiment comme ça que Dini l'a, ouais. L'a utilisé, mais aussi, comme tu l'as souligné, je veux dire, tu sais, et particulièrement dans le domaine des super-héros, je veux dire, on présente des valeurs, on présente des personnages qui sont plus grands que nature, on présente ce qu'on pourrait qualifier, dans une perspective, disons, historienne plus large, des exemples édifiants. Comme il y en a eu avec les contes au Moyen-Âge, comme il y en avait avec les grands récits épiques dans l'Antiquité, cette idée de créer un exemple, un modèle sur lequel on peut se baser, sur lequel on peut se référer comme ça pour passer à travers les coups durs, à travers les épreuves de la vie. Mais justement, au-delà de la, cette crise de foi, moi, je vais le dire aussi, on l'a tout utilisé, je pense que Marco... comme cerner parfaitement le concept. c'est, je pense, c'est ça, tu sais, une quête d'authenticité, justement, une quête d'intégrité, une quête de dire, est-ce que je suis encore capable, justement, de créer cet exemple édifiant-là pour porter le message, évidemment, que porte Batman, parce que, bon, tu sais, ben des gens, justement, qui sont moins aficionados ou juste moins ferrés en comics ont toujours cette tendance à penser justement que c'est du pur divertissement, que c'est de la grosse baston, puis qu'on passe pas autour. Mais encore une fois, au contraire, là, je l'ai dit, je le radoterai toute ma vie, là, je veux dire, c'est la mythologie moderne. Et comme n'importe quelle mythologie, c'est ce genre de leçons-là édifiantes qu'on va aller puiser, qui vont être mis là-dedans. Et c'est pour ça qu'ils sont plus grands que nature, c'est pour ça qu'ils sont parfaits, c'est pour ça qu'ils sont invincibles. C'est pour ça. Et de mettre ça en clash avec justement le côté très humain d'un pauvre petit BDS qui se fait donner à voler, c'est éblouissant. C'est éblouissant.
Et on a même, puis ça c'est pour finir là-dessus sur une note plus joyeuse dans cet album-là, ça c'est un plaisir personnel, mais j'ai beaucoup trippé quand j'ai vu Bouchou et Casse-Cou faire une apparition
oui! dans cet album. Beau souvenir, ouais, d'enfance, extraordinaire.
Excusez-moi, ça c'était personnel.
Mais je pense que la sélection, globalement, met bien de l'avant, je pense, la richesse du médium. Tu parlais en introduction de la capacité du médium à réfléchir sur lui-même, à se mettre en scène, mais au bout du compte, à faire réfléchir aussi sur l'existence au sens très, très large. Je pense que Dark Knight, Edouard l'a bien dit, dans le fond, ça nous amène vers c'est quelque chose de fondamental. Dans le fond, le pourquoi on fait, on persiste, on est capable de, mais les autres titres aussi nous amènent dans d'autres perspectives assez existentielles au bout du compte. Puis, au bout du compte, l'artiste à sa table de travail, c'est l'artiste qui réfléchit à pourquoi il fait ce qu'il fait, à pourquoi il continue à le faire. Puis, nécessairement, à la lecture, bien, on réfléchit nous-mêmes à notre propre existence, au choix qu'on fait jour après jour, qui nous satisfont ou non.
Il nous donne un sens à nous aussi, hein, exactement. Hein.
Une sélection, ma foi, inspirante et qui montre à quel point la BD est un médium, d'ailleurs, riche et riche. Dans le fond, disons-le comme ça, deux fois riche.
C'est le seul.
Ouais. Alors, je rappelle les titres qu'on a jasés aujourd'hui au Club de lecture. Je rappelle que c'est les sélections de Jérôme Vermette. Alors, on a échangé autour du Rituel de Malheur, qui est disponible à l'association, du dessin de Jonathan Munoz, qui est disponible chez Glénat, de Dark Knight, une histoire vraie de Paul Dini et Eduardo Risso chez Urban Comics, et de Saint-Rose, à la recherche du dessin ultime d'Hugues Micolle chez Futuropolis. Je mentionne également que si vous voulez réécouter le club de lecture ou retomber dans nos anciens clubs de lecture, c'est possible de le faire au lavieenbd.com. Alors, ben là-dessus, je remercie mes collaborateurs pour cette semaine, Marco Duchesne, Édouard Tremblay, Jérôme Vermette. Un grand merci à vous trois.
Toujours un plaisir.
Et nous, on se revoit le mois prochain en mai, donc j'aurai le plaisir de faire la sélection du club de lecture. Ce sera un défi personnel. Et ben, pour les auditeurs et auditrices, on se retrouve évidemment la semaine prochaine pour une autre édition de La Vie en BD. Alors, c'est Raymond Poirier au micro. Passez une excellente semaine et à très bientôt.